moi j'aime bien commencer par l'idée que c'est un très vieux rêve. C'est-à-dire qu'on a tous pensé à la télépathie depuis longtemps, voir, on s'est dit, bon, bah, peut-être même, est-ce que c'est une question qui ne relève pas de la science.
Donc, dans les années 30, ont été développées des technologies simples qui sont celles de l'électrode. En mettant des électrodes sur le crâne, on se rend compte que oui, effectivement, comme, en tout cas scientifiquement, on supposait que le crâne, lui, il relayait un peu l'activité qui se déroulait dans le cerveau, parce que tout simplement, ce qui se déroule dans le cerveau, ce sont des activités électriques. Ici, dans les années 60, un compositeur qui s'appelle Alvin Lucier a équipé un performeur avec ce genre d'électrode. Et voilà ce qui se déroulait dans Music for a Solo Performer. Il détectait simplement si quelqu'un avait été dans un état plutôt de calme ou plutôt de grande activité, concentration. Parce que ça, on n'avait plus à cette époque-là le repérer. Alors on voit que le rythme des ondes cérébrales change. En quasiment 70 ans, on n'a pas réussi à faire progresser tellement la chose. Alors en fait, là, on a une seule grande famille qui correspond à la veille, et puis une grande différence qui correspondrait au moment où on dort. Et c'est ce qu'a voulu proposer Alvin Lucier dans cette pièce Music for a Solo Composer Performer, c'est dire, bon, si on arrive à repérer quelqu'un qui dort, on doit à peu près repérer quelqu'un qui est dans un état de méditation. Donc on proposait à ce performeur, comme ça, assis dans sa chaise face au public, et en plus la spectacularisation était très, très intéressante, puisque pour le performeur lui-même, vous allez voir que ces conditions-là étaient même un peu critiques, de se retrouver en face d'une audience importante, mais quand même d'essayer d'arriver à se mettre dans un état de méditation. Donc il fermait les yeux, il essayait d'être le plus calme possible, d'être dans un moment vraiment de repos. Dans ces conditions-là, il arrivait à produire des ondes cérébrales un petit peu plus lentes qui s'apparentent à celles qu'on vient de voir. Si par contre il ouvrait les yeux et qu'il commençait à se rendre compte qu'il y avait des ondes devant lui, ça provoque un certain stress, forcément les ondes changent, et dans ce cas-là il excite une batterie, un ensemble de percussions qui sont cachées derrière et qui viennent réagir et produire du son et donc un ensemble musical. Mais il s'agit d'une production de musique assez développée. On va en voir un autre exemple beaucoup plus récent qui est intéressant et qui est lui produit dans les années 2000. À cette époque-là donc, toute la difficulté pour ce performeur qui est vu vraiment comme quelqu'un qui joue, c'est d'osciller entre le calme et la concentration. Donc soit il est calme et la musique s'arrête et devient beaucoup plus... les percussions sont plus rares, soit elles sont beaucoup plus denses si jamais il ouvre les yeux et il se concentre. Et ça, c'est réalisé à partir d'un équipement relativement simple, puisqu'il suffit d'avoir peu d'électrodes. Un ou deux éléments de référence suffisent à rendre compte de ce genre d'activité cérébrale. Puisqu'en fait, ce même rythme concerne l'ensemble du cerveau. Donc, on n'a pas vraiment de différence entre l'arrière, le dessus, l'avant, dans ce cas-là. Par contre, à l'intérieur, juste pour les situer, on s'imagine que ça va être beaucoup plus complexe et touffu, puisqu'on compte plusieurs milliards de neurones. Et là, tout d'un coup, on aurait une ou deux électrodes. Comment est-ce qu'on fait le lien entre les deux? Ben, ça aussi, on va voir que ça se retrouve un petit peu compté pour nous dans cette logique qui serait celle d'aller vers la télépathie, d'aller vers quelque chose d'un peu plus complexe. J'y reviens là. Dans ce que je notais ici, on a un fond de pensée qui nous anime et qui serait celui que l'on espère d'une interface comme celle-ci, c'est-à-dire se faire détecter cette pensée, et ensuite qu'elle soit efficace, c'est-à-dire qu'il y ait une vraie qualité de cette détection. Or, là, ce qu'on a vu pour le moment, même si c'est déjà très surprenant, même si on se dit ça appartient au XXe siècle, même si c'est né dans les années 30 et se développe chez un artiste qui s'essaye aux nouvelles technologies dans les années 60, bon, à part distinguer méditation et concentration, c'est encore assez simple. Les découvertes plus récentes, elles nous mènent vers une précision qu'il est intéressant de faire, de suivre, c'est le fait que en multipliant le nombre d'électrodes déjà, et puis en lisant quelle est la variation de ces rythmes et de ces fréquences sensément à l'intérieur du cerveau, on arriverait à une lecture plus fine. Mais il nous manquerait encore des éléments, j'y reviendrai également, qui sont plutôt qualitatifs et auxquels on commence à pouvoir accéder maintenant. C'est qu'avec des ordinateurs rapides, toutes ces variations des signaux dans les électrodes, on va peut-être pouvoir arriver à les décrypter. Alors on serait beaucoup plus proche de ce que j'évoquais, c'est-à-dire vraiment une activité mentale et non plus seulement un état. Je vais montrer quelques éléments vidéo qui s'y rapportent. Dans cet exemple-ci, on voit quelqu'un qui se déplace dans Second Life, c'est-à-dire dans un environnement 3D persistant, à l'aide d'un dispositif qui est accroché sur son crâne. À partir de ce constat, on devrait se dire, bon, bah, se déplacer, donc pouvoir penser, je vais vers l'avant, je me tourne vers la gauche, ça semble être possible. On va voir par contre le dispositif qui est le sien.
Bonjour.
Le dispositif physique, on va le voir à un moment, ça correspond à ça, c'est un petit... Et on voit que c'est dans un contexte universitaire. Ces universités, on en trouve beaucoup des Brain Labs de par le monde, et qui proposent un système qui se standardise petit à petit, et qui part du principe que l'on pourrait poser un ensemble de 256 électrodes partout sur le crâne. Et cette façon de s'équiper, elle est évidemment un peu problématique. Parce que si on est passé de une ou deux électrodes qui étaient placées sur ce qu'on appelle les lobes préfrontaux, uniquement pour l'installation de David Lucier, dans ce cas présent, on peut difficilement imaginer que l'on soit équipé de cette façon-là communément. Alors si on regarde de plus ce qui est en train de se passer pour l'expérimentateur, et qu'il se doit de rester extrêmement fixe, de ne pas bouger du tout et de rester presque dans un état justement de concentration, une sorte de double état problématique, tout à la fois celui d'une concentration et d'un grand calme. Mais bon, on obtient un résultat effectivement impressionnant.
Je peux vous poser une question ?
Je vous en prie.
Dans certains films, vous savez, l'avion là, qui est détourné, il se met en commande et mentalement il commande les manettes. C'est possible ça ?
Mais tout à fait. Alors c'est pour ça que j'ai aussi, puisque là c'est la recherche en université, quelques images de ce qui se déroule dans un contexte qui nous semble bien valide, scientifiquement parlant, c'est la NASA.
Voilà. Vous avez dit 146 électrodes, il n'y a pas des effets secondaires lorsqu'on met
Mais je serais assez d'accord avec ça. Pour ma part, il me semble que l'effet secondaire direct qu'on peut percevoir, c'est la façon d'être appareillé. C'est beaucoup trop envahissant. On se retrouve un petit peu encombré d'un dispositif comme celui-ci.
Et donc, on peut être concentré comme ça avec...
Tout à fait, c'est la question. C'est-à-dire, est-ce que les dispositifs comme ceci, qu'on est en train de voir, et qui vont appareiller des pilotes, hein, et notamment des pilotes de chasse, est-ce que ces dispositifs sont tenables ? Alors, je n'en ai pas d'image, mais il se trouve que ce type de recherches ont été menées notamment en Suisse. Il y a un Brain Lab très important qui se trouve à Genève, le BBL. Et Genève a travaillé en relation avec la Suisse, a travaillé en relation avec ses pilotes de chasse pour que les pilotes de chasse puissent tirer. Donc c'est très très violent en plus comme relation que l'on aperçoit tout d'un coup aux effets que ça peut produire, peuvent tirer, par exemple, en clignant des yeux. Parce que là, c'est plus facile de détecter ce genre de sollicitation musculaire. Les muscles faciaux changent, et là, la variation de champ magnétique, elle est importante. Mais il se dirige, bien sûr, vers ce que l'on voit dans la vidéo de la NASA, simplement. Pour le moment, il semble que l'on soit encore dans des dispositifs qui prennent en compte une toute petite partie de l'activité du cerveau, parce que, comme on peut le voir sur cette modélisation, elle est extrêmement diffuse. Elle n'est peut-être pas si complexe, c'est ça qui est paradoxal, mais elle est diffuse. Elle se déroule à l'intérieur du cerveau, dans un espace tridimensionnel, et donc tout au long d'un processus temporel, en plus. Mais des processus temporels complexes, on apprend depuis une dizaine d'années à les traiter, parce que l'on peut enregistrer dans la continuité des signaux, et on peut apprendre petit à petit à les traiter, ces signaux. On connaît ça très bien avec les synthétiseurs de musique, on connaît ça de plus en plus avec la synthèse vocale, avec le fait d'analyser ce que l'on est en train de dire dans un micro. J'étais en train de parler tout à l'heure à Jocelyne d'un petit assistant qui existe maintenant sur les nouveaux iPhones et qui permet de leur parler en langage naturel. Donc on peut analyser au fil de la diction ce que l'on est en train de dire. On doit pouvoir faire la même chose à partir d'un certain nombre de signaux émis par le crâne. Il n'en reste pas moins que ça reste peu prédictif. Et surtout, dans une activité aussi risquée que le pilotage d'un avion, on s'imagine qu'on n'a plus du tout le droit à l'erreur. Donc, ça reste hautement spéculatif pour le moment, mais on va voir des applications qui sont quand même plus avancées à partir du moment où on est dans des dispositifs un peu moins risqués que le pilotage d'un avion. Donc, ce qui appartiendrait au pilotage de l'avion, ça, ce serait quand même à rapprocher encore de l'anticipation, mais fort peu, si on voit ce qu'il en est, de recherches comme celle-ci, qui sont elles aussi universitaires. Donc on retrouve à peu près le même dispositif, on aurait plusieurs électrodes sur le crâne, on voit que là il y en a moins que 250, mais par contre que le dispositif par lequel on va arriver à rentrer du texte, puisque le but c'est bien de pouvoir écrire par la pensée. Imaginez ce que peut apporter ce type d'invention, d'application pour un handicapé moteur, comme par exemple Stephen Hawking, qui est ce physicien célèbre, qui lui n'a pas l'usage de la parole et ne peut ni même de ses membres. Mais la pensée est toujours là. En particulier chez lui, elle est remarquable. Eh bien, dans ce cas, il s'agirait de voir si l'on ne peut pas avoir une correspondance si je vise la lettre V, par exemple. On voit que de temps en temps, le V se trouve clignoté à l'horizontale ou à la verticale. Si je fixe avec mon œil la lettre V, quand le V clignote à l'horizontale, quand le V clignote à la verticale, mon cerveau ne produit pas exactement les mêmes fréquences. Et je peux à ce moment-là voir précisément depuis l'ordinateur en l'analysant, quand est-ce que j'ai regardé une colonne, quand est-ce que j'ai regardé une ligne. Si c'est la même colonne et la même ligne, à l'intersection de ces deux colonnes et lignes, on peut détecter quelle est la lettre. C'est encore extrêmement balbutiant, mais je serais tenté de dire, pour le montrer ici, au début de cette vidéo, que ça date des années 2000. Vous voyez BCI 2000, c'est le logo, et on le voit à la fin. Ça appartient à des recherches qui ont été menées, somme toute, il y a 10 ans. Donc, qu'est-ce qui a bien pu se passer en 10 ans? C'est aussi un petit peu ce que je peux essayer d'approcher maintenant. Bon, là, je n'ai pas à proprement parler d'image pour ça, mais il y a une vidéo qui peut y faire penser un tout petit peu. C'est celle-ci, et où on voit quelque chose d'assez important pour faire le lien, cette fois-ci, non pas entre les 250 électrodes et un résultat probant, mais par contre, plutôt, vous voyez, ce type a juste un petit bandeau, qui s'appelle un Neurosky. Il y a trois électrodes dessus, donc on est sur le lobe préfrontal, ce que l'on voyait dans les années 60 utilisé par le compositeur Alvin Lucier. Et il est en train de lire. Ce que l'on voit à gauche et à droite, puisqu'il y a trois électrodes, l'une qui est placée au centre, l'une qui est placée à gauche, l'une qui est placée à droite, c'est la différence d'activité qu'il peut y avoir entre le lobe gauche du cerveau et le lobe droit. Et il se trouve que cette différence est très importante, elle concerne des activités assez différentes, et on peut se baser comme ça par recoupement sur qu'est-ce que quelqu'un produit comme activité au fil du temps, quand par exemple il lit, quand par exemple il mange, ou quand il regarde quelqu'un, quand il parle avec quelqu'un, et on se rend compte que les lobes préfrontaux sont assez importants dans ces cas-là. Or, qu'on a diminué tout d'un coup au maximum le nombre d'électrodes, et on arrive quand même à avoir des résultats un peu probants. Ça, c'est le grand changement. C'est dans ces 10 dernières années, en fait, d'avoir pu se dire, mais en fait, avec assez peu d'informations, on peut quand même approcher, sinon savoir ce que la personne pense, ce qui est encore un petit peu difficile, mais du moins ce qu'elle est en train de faire, ce à quoi ça ressemble.
This video, we're going to show you how to control the car using brain sensors. On the left is our car. On the right, you can see the EEG sensors used for measuring brain activity.
Donc la personne chausse le casque. C'est pas compliqué. On voit en plus que c'est sans fil et que cette personne, elle va apprendre à réagir à des stimuli qui sont par exemple pensée droite ou pensée gauche. Donc, ça va s'illustrer sur l'image par le fait qu'un petit cube se dirige vers la droite ou vers la gauche. Là, on est très très loin des 250 électrodes que l'on a vues tout à l'heure en université. Bon, ça, c'est donc une interface dont je dispose, qui est produite par une compagnie qui s'appelle Emotive. On pourrait s'attendre à ce que cette compagnie, elle travaille plutôt avec les universités, les artistes, les designers, mais en fait, pas du tout. Son idée, c'était les jeux vidéo. Donc elle a créé cette interface sans fil, un peu pratique, avec dans l'idée qu'effectivement on puisse piloter un jeu vidéo. Une autre application assez amusante, mais je pourrais le montrer un peu rapidement, c'est développée par ce type qui a réussi à récupérer les signaux provenant du casque, du même casque, et il va piloter un robot. Le but étant de récupérer une petite balle, de la pincer entre les pinces du robot, puis de monter la balle et la reposer sur l'autre support. Donc il faut encore arriver. C'est peut-être plus compliqué, je trouve, que la voiture. Parce que pour la voiture, il suffisait de penser droite ou gauche. Mais là, c'est droite, gauche, lever, descendre, serrer la pince. Enfin, donc, c'est assez amusant de voir quelque chose qui me semble important de préciser. Voilà. Entre des applications fines avec ce même dispositif et l'absence de concentration, le fait que ça ait rejoint un petit peu notre quotidien, il faudra encore, je peux, mais que je me tiens un petit peu au courant de ces choses-là, je peux imaginer qu'il faut encore une dizaine d'années. Mais par contre, je postule pour ma part que dans une dizaine d'années, par exemple, un pilote de bulldozer pourra très bien utiliser ce genre de dispositif pour pouvoir se trouver à l'extérieur de la cabine, piloter depuis le chantier, donc il va voir ce qui se passe, il pilote sa machine depuis l'extérieur et il obtient le résultat escompté. Donc il peut regarder à un endroit qui est peut-être moins astreignant que d'être à l'intérieur de sa cabine. Enfin voilà. Là, on a des possibilités qui sont très ouvertes et qui sont très intéressantes à mon sens. En fait, comment est-ce qu'on peut se le réapproprier comme artiste, à mon avis, c'est là la question. On peut se dire on pilote. On peut se dire on fixe son attention sur quelque chose et ça remplace à peu près une souris. On pousse, on tire, on l'a vu avec le robot, on est vraiment très très proche de la notion de pilotage. Bon, après tout, le fait d'utiliser des interfaces comme la souris, même comme des vélos depuis longtemps, les artistes savent très bien comment se le réapproprier. Mais il m'a semblé plus intéressant de se dire, mais attendez, j'ai fait une résidence en fait l'année dernière ici à Montreuil, derrière au studio Peter Hertz. Et on a fait quelques expériences avec ce casque parce que celui que vous voyez était une pré-série en fait. Je suis en rapport avec Emotive depuis 2 ans et demi maintenant, et au début ils n'avaient que des prototypes.
Mais à cette époque-là, on était encore beaucoup trop proche du pilotage, du fait de dire « va quelque part, pousser, tirer ». Donc le premier travail que j'ai fait à cette époque-là, c'était déjà d'essayer de me réapproprier cette capacité de piloter pour mieux comprendre ce qu'on voit. Et je ne sais pas si vous vous souvenez du télécran. Le télécran, c'était un jouet simple avec un petit... c'était une ardoise magique. Donc j'ai programmé un petit télécran dans Processing et je l'ai... j'ai essayé de produire quelque chose de précis. Pas un dessin, évidemment, parce que j'étais pas aussi doué que le type avec son robot. Mais par contre, d'aller en haut et à gauche. C'est-à-dire de ne pas aller trop vers le haut et de ne pas aller trop vers la gauche, de rejoindre le point. Je suis là très très concentré. Il faut voir vraiment que ça demande une concentration importante. Et je vais quand même, là, cette fois-ci, réussir à avoir une belle diagonale. Donc on est très proche de l'idée de pouvoir dessiner. Je pense, hein, qu'on est à un an peut-être de pouvoir, avec ce dispositif, dessiner confortablement. Pourquoi elle s'appelle Resting et Télécran Resting? C'est parce que au bout de ces deux tentatives, j'étais très fatigué. J'étais heureusement dans un fauteuil un peu confortable avec des petits accoudoirs et je me pose comme ça et je me dis bon, ça suffit, il me faut quelques minutes de calme. Et je relance la machine comme ça, c'est un acquis de conscience. Et voilà ce que j'observe. Parce que je suis complètement reposé, je suis plus concentré, mais par contre, j'ai le sentiment qu'un membre a poussé. Et sans y penser, je vais aller en haut à gauche. Et je suis complètement bluffé. Complètement bluffé. Et ça va nous dire quelque chose de très important, qui renverse complètement tout ce que j'ai évoqué depuis le début. Puisqu'on est arrivé à un dispositif suffisamment précis avec ce genre d'engin, pour pouvoir analyser l'activité cérébrale. Et que ces questions-là semblent être un petit peu résolues. On l'a vu, si quelqu'un veut faire une application fine, et comme une application dont précise est possible, bah, peut-être que la seule question, c'est, comme je l'évoquais auparavant, tout le degré de concentration qui est nécessaire. Mais là, on aura pu voir que c'était plus tout à fait nécessaire. On peut être au calme, on a simplement l'impression qu'on a acquis de nouvelles capacités. Il suffit de porter cet engin pendant quelques heures, et en fait, ça devient parfaitement transparent. Je pense que le conducteur de bulldozer pourrait tout à fait ne pas être dans la concentration et quand même obtenir un résultat plausible. Mais je crois qu'en fait, quel est l'engin, quelle est la machine qui est plus plastique encore que ce dispositif? C'est notre cerveau. Notre cerveau est en fait incroyablement adaptable et plastique. Et on s'adapte exactement comme avec une souris ou un crayon au fait qu'on peut faire des choses. Bon, ben, si on peut, on va pouvoir faire retomber la concentration et passer à autre chose. Donc se concentrer sur d'autres... Enfin, se concentrer, c'est porter son attention sur d'autres mécanismes. Donc il y en a certains que l'on a essayé.
Oui, ça ne peut pas développer des choses plus ou moins... des actions, des possibilités que certains
ne connaissent pas. Exactement, je crois qu'on est exactement là-dedans. C'est-à-dire qu'il semble presque prosaïque de dire que se concentrer pour obtenir un résultat ou être dans un état un petit peu de calme et pouvoir se laisser aller, parce que c'était vraiment ça, je me laissais aller, je ne pensais pas. Je ne vais pas en haut à gauche, je ne pensais pas ça. J'étais plutôt en train de penser à ce que j'allais acheter.
Vous avez intégré le processus.
J'avais complètement intégré le processus. Ce membre s'en chargeait exactement comme je peux être en train de vous parler et de lever cette clémentine ou alors de lever mon verre alors que je suis en train de parler de brain computer, etc. On peut faire deux choses en même temps. Somme toute, ça semblait évident, mais pouvoir le faire avec ce genre de dispositif, ça ne le semblait pas jusqu'il y a peu. Ça m'a amené à faire d'autres expériences importantes, et notamment il y en a une que j'ai pu réaliser récemment
lors d'un symposium à Bruxelles et pour lequel je pourrais vous le faire expérimenter tout à l'heure. Mais juste encore un mot sur cette résidence ou sur les expériences qui ont pu être menées pendant cette, cette résidence à Beta Hertz. Jusque-là, vous voyez qu'il s'agissait d'aller en haut ou à gauche. Or, ce que l'on a vu dans l'interface de ces vidéos comme celle-ci, c'est que cette espèce de petit signe que l'on retrouvait également dans d'autres vidéos montre que l'on va, par exemple, vers le fond ou vers l'avant. On déplace, en fait. On va vers la gauche ou on va vers la droite, comme c'était le cas. Vers la gauche ou vers la droite. Vous voyez le petit carré qui se déplace et qui en rend compte. Donc, pour moi, pour le télécran dont je vous ai montré l'image ici, il s'agissait de reprendre la même chose, aller vers le haut ou vers la gauche. Donc, de rester dans les contextes d'analyse que proposaient les créateurs de ce casque. Puis, vers 5 heures, un jour, je portais le casque. Et je vous assure, c'est très drôle, finalement, le contexte dans lequel ça naît. Parce que là, on n'est plus du tout dans l'université, on est dans le cadre d'une résidence artistique. Il est 5 heures, j'ai faim. Et je me dis, allons-y. Je vais essayer d'analyser si le casque, si l'ordinateur peuvent reconnaître le fait que j'ai faim. Et je m'enregistre, puisque avec ce dispositif, on enregistre au préalable une pensée comme lever ou monter, aller à gauche. J'enregistre comme si je devais pousser cette espèce de caisse, mais au lieu de penser pousser la caisse, j'étais en train de penser à une madeleine. Évidemment, je fais référence à la Madeleine de Proust, mais c'est parce que c'est tellement beau, c'était tellement... Mais je vous assure, j'étais en train de penser à une madeleine. J'arrête l'enregistrement. Puis je pense à une aubergine, il ne se passe rien du tout. Puis je repense à la madeleine, et hop, je vois la caisse. Donc, le dispositif, à partir du moment où il était trompé de façon suffisamment radicale, il pouvait relever le fait que je réfléchissais, ou que je pensais implicitement à autre chose. Donc on n'avait plus besoin de cette concentration, on n'avait plus besoin... non seulement on n'avait plus besoin de la concentration, mais on n'avait plus besoin du contexte un petit peu précis, un peu hérité des jeux vidéo notamment, qui était celui de cette... Donc j'ai fait remonter cette information auprès de la société. Ils étaient évidemment très très intéressés, mais eux ne souhaitent pas l'appliquer pour le moment. Ils restent dans les clous de ce qu'ils se sont donné comme enjeu. Moi par contre, j'ai envie de l'explorer complètement différemment. Donc j'ai amené plusieurs personnes à essayer ce casque pendant cette résidence, et notamment une ex-étudiante à moi qui... avec laquelle on a fait un petit protocole qui peut sembler expérimental, mais en fait qui se révèle pour produire des choses très étonnantes. Elle a d'abord chaussé le casque et je lui ai dit « Pense à quelque chose, mais ne me dis pas ce que c'est. Je vais enregistrer pendant que tu penses à cette chose-là. » Je le fais, j'enregistre. Et je lui dis par contre de se concentrer un petit peu sur cette chose-là, précisément, mais de ne pas me le dire. Puis ensuite, on passe à toute autre chose. Et à l'occasion, pendant la discussion, je lui dis « Maintenant, pense à ce à quoi tu as pensé. » Et toujours ne me dis pas ce que c'est. Elle le fait. Et là, je vois qu'effectivement, on a réussi à détecter le fait qu'elle y pensait. C'est déjà très surprenant parce que là, on est dans un contexte où je n'ai peut-être pas précisé « fin » ou « madeleine ». Et je lui demande « Mais à quoi as-tu pensé ?» À Hiroshima. Donc, à quelque chose d'éminemment complexe, diffus... Donc, ça y est, on était tout à coup très proche de la pensée. J'imagine que pour y penser, elle avait activé quelque chose qui était significatif pour elle. Donc, j'étais bluffé. On a essayé un autre avec cette même étudiante.
À partir de ce sentiment, de cette émotion, elle a créé une image.
Donc, je crois qu'on était dans l'ordre de l'émotion. Je pouvais le détecter pour le moment, seulement ça.
Mais on ne peut pas le mettre en image, ça.
Mais j'y viens, là, on était dans l'expérimentation, bien sûr. Tout à fait. Mais exactement, mais c'est très juste. Mais ça donne envie, forcément. Seulement, j'avais envie de complexifier un peu la chose pour éviter l'erreur. Comme ici, par exemple, il y a deux directions. Donc, parce que quand on n'en a qu'une, la marge d'erreur, elle peut être un peu importante. Et je lui ai proposé à ce moment-là de penser à quelque chose qui était fort pour elle en termes émotifs également, mais qui amenait autre chose, une autre pensée. Et on a convenu ensemble qu'elle allait penser à un personnage politique qui ne lui plaisait pas.
Elle a pensé à quelqu'un, ça lui appartient, elle a pensé à Frédéric, j'ai oublié son nom, c'était ce porte-parole de l'UMP qui a fait de grosses bourdes, comme par exemple inviter les gens à faire de la délation, c'est il n'y a pas très longtemps, enfin son nom importe peu. Par contre, je remarquais qu'elle y arrivait assez précisément, à penser à lui, puis à penser à Hiroshima, et donc on voyait les deux s'activer. Et j'ai eu envie, par exemple, que ça se retrouve dans un simple éditeur de texte. C'est-à-dire que quand elle pensait à ce type qui avait marqué Frédéric, qui s'écrivait dans un éditeur de texte, exactement comme vous utilisez un traitement de texte, Frédéric apparaissait. Et au contraire, quand elle pensait à Hiroshima, il y avait le mot « explose ». Et je lui ai demandé de se concentrer un peu précisément, et on a obtenu « Frédéric explose ». Frédéric explose, qui était très très drôle. C'était évidemment très très drôle. Et ça produisait, en quelque sorte, ça produisait déjà du texte.
C'est schématique, mais...
Très schématique, bien sûr, très schématique.
C'est le bon départ.
À la fin de cette résidence, j'ai réalisé un dispositif qui s'appelait « Seul dans le noir », et où j'avais construit une sorte de petite cabine. Dans cette petite cabine, il y avait une vidéo qui passait, et qui était comme ça, juste des images de ciel. Seulement, elle était très sombre. C'est-à-dire que les mêmes images étaient des images de nuit. Lorsque les personnes se retrouvaient simplement assises dans le noir, dans cette espèce d'isolement, dans la cabine, donc je jouais évidemment sur deux tableaux, ça me permettait d'isoler les personnes pour éviter que ce soit un petit peu trop complexe, la sollicitation mentale de quelqu'un. Et quand par contre, il leur arrivait de penser à de la lumière, ou à quelque chose qui s'illumine, alors l'image devenait une image de jour. Donc là, il y a de l'image qui est produite dans ce contexte. Mais l'image, elle produit l'effet sur le public. Et une image plus lumineuse fait penser à de la lumière. Et donc il y a tout d'un coup un moment de feedback, c'est-à-dire de boucle, qui était très intéressante à observer pour moi, et peut-être un petit peu moins pour le public, c'est de voir que s'ils commençaient à faire venir cette image plus lumineuse de jour, à ce moment-là, ils entraient dans une sorte de vibration, et l'image pulsait et passait de la nuit au jour très rapidement, parce que forcément, ils pensaient jour, ils voyaient le jour, et pendant le laps de temps de leur expérience, qui durait environ 5 minutes, ils me disaient, j'ai essayé de domestiquer une vidéo par la pensée. Donc ça m'a gêné, parce que cette idée de domestiquer, on était encore dans la notion de pilotage et d'appareillage.
Oui, parce qu'il ne veut pas se laisser dominer par la technologie.
Exactement. Exactement, mais que peut-on faire dans ce cas-là? Parce que...
les gens ont peur de la technologie, ils ont peur de devenir des robots.
Oui, 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 mais là, ils en avaient l'attitude de pouvoir le changer ou le modifier, mais... Il fallait qu'il passe par cette expérience, enfin il fallait aussi que je passe moi par cette expérience pour me rendre compte que c'était pas complètement satisfaisant. Bon, en fait, ça n'a pas beaucoup progressé après la proposition qui a eu lieu à Montreuil l'année dernière à Peterhertz, pour une raison simple, c'est que j'ai été choqué par les résultats que j'ai obtenus. C'est-à-dire que même pour les expérimentateurs, c'était nouveau. Et je pense que pour beaucoup d'expérimentateurs, la difficulté, c'est ça. C'est-à-dire qu'on manque de modèles pour se représenter ce qui est en train de nous arriver. Mais je crois par contre tout à fait à cette question, à cet effet qui est qu'un membre nous est poussé. On a un nouveau membre. Tout simplement, c'est la représentation qu'on s'en fait dans notre corps depuis l'enfance. Quand on se rend compte qu'on peut produire quelque chose par la pensée, eh bien généralement, ça passe par un membre physique. Donc c'est un postulat, j'aimerais bien creuser ça. Mais pour le moment, ce que j'ai essayé de creuser, c'est plutôt de sortir de la notion de pilotage. Et donc ce qui s'est passé récemment à Bruxelles, où j'étais invité pour un symposium et j'ai participé
à... Oui, votre but, c'est sortir du pilotage, c'est de voir ce qui se passe vraiment au fond des neurones des individus.
Je ne suis pas sûr. Justement, je me demande si on nourrit pas un peu un fantasme qui est celui d'une compréhension beaucoup trop
mécaniste et trop fine de notre activité mentale, alors qu'en fait, on peut très bien en tirer parti d'une façon plus, plus souple. Mais pour ça, il fallait encore que j'arrive à me dire, bon, est-ce que, qu'est-ce qui relève de cette souplesse ? Et en particulier, comme je l'ai évoqué pour ce dispositif, il fallait auparavant, avant de l'expérimenter, que j'enregistre la personne en train de penser lumière, par exemple. Oui, mais ça ne pouvait pas me convenir, puisque il était pas... Enfin, on est déjà dans le pilotage. Je l'enregistre auparavant, et puis cette personne, elle sait un petit peu ce qu'elle doit danser pour pouvoir activer. Enfin, il y avait quelque chose d'un peu complexe.
Et puis en plus, la personne, déjà la lumière, tout ce qu'elle représente, tout va aller.
Bien sûr, bien sûr. Et ça, c'était aussi évoqué auparavant, avant que je l'enregistre. Je disais bien qu'il était important pour pouvoir se réapproprier une telle proposition, de se mettre dans un contexte qui était celui de l'émotion, de s'approprier quelque chose de la lumière qui soit propre. Donc certains m'ont confié avoir pensé à une ampoule qui s'allume, d'autres à un lever de soleil, d'autres à une ambiance qu'ils avaient ressentie à la plage. Enfin, donc ça, c'était très, très varié. Et ça, c'était déjà très intéressant de pouvoir éviter de devoir penser de façon ultra précise et trop aliénante, je trouve, à quelque chose en particulier. On laissait la possibilité au public de penser un peu à ce qu'il voulait. Alors, comment est-ce qu'on peut lui proposer de penser à ce qu'il veut, tout en l'aiguillant? Si on peut parvenir à refaire l'expérience aujourd'hui, ce que j'ai produit à Bruxelles à cette occasion-là. Alors, on voit qu'il y a un ensemble de petites, comme des petits points qui apparaissent en bas. Il va suffire de regarder ces petits points qui naissent en bas, et il va se passer quelque chose quand vous les regarderez après. C'est juste, en fait, il faut me croire un petit peu ici. ces petits points lumineux, c'est des graines. Et simplement se concentrer sur ces graines, sans penser à quoi que ce soit cette fois-ci, c'est ça qui est important pour moi, c'est d'avoir déplacé encore un peu cette nécessité d'une concentration. Ça suffit pour les faire germer, ces graines. Vous voyez, pour le moment, ça pousse pas, justement. Donc, regardez simplement les petites graines qui apparaissent les unes les... C'est-à-dire qu'on voit que ça va faire des espèces de petites... Voilà, ça se met à s'activer. Et c'est ça qui compte. C'est juste que vous vous concentriez sur ces petites apparitions de graines. Maintenant, pensez qu'elles poussent. Et voilà. Vous pouvez maintenant assez librement les faire pousser, simplement en pensant qu'elles poussent. Donc on est ailleurs, en fait. On n'est plus dans une façon de contrôler, de piloter ou de s'obliger à. Ce qui est important, c'est juste, on a été confronté à un petit stimulus visuel, c'est ce petit point qui clignote, et ça suffit à ce qu'on ait, à ce qu'on développe l'activité cérébrale qu'il faut pour pouvoir les faire. Est-ce que ça va redescendre?
C'est comme un schéma, quoi.
C'est la prochaine étape.
C'est pas tout de suite, d'accord.
C'est pas tout de suite, d'accord.